Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue pour ce cinérama du mercredi 23 mars. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors on va développer immédiatement le sommaire qui va être encore une fois copieux et notamment tu as prévu un gros dossier.
Oui, tout à fait, à l'occasion de la sortie en salle du film L'Agence avec Matt Damon, voilà, qui sort sur nos écrans aujourd'hui. L'Agence, c'est une adaptation de Philip K. Dick, un écrivain américain de science-fiction que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Eh bien, je reviendrai aujourd'hui et la semaine prochaine sur les adaptations, tous les films qui ont été tirés des œuvres de Philip K. Dick. Voilà, c'est un sujet assez copieux que j'avais déjà exploré il y a un petit moment. Et là, je vais vous faire une synthèse.
Et évidemment, enfin, on le précise, hein, tu as déjà travaillé sur un plan universitaire, hein, sur ce sujet,
voilà.
ce qui permet d'avoir une parole autorisée.
J'ai déjà écrit 80 pages sur ce sujet. Là, je ne vais pas vous faire les 80 pages, j'ai réduit. Mais bon, ça va être quand même assez copieux, j'espère.
Donc ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Moi, je vous parlerai du dernier Clapiche, Ma part du gâteau, sorti la semaine dernière. Et puis, un film qui sort aujourd'hui, Les yeux de sa mère, réalisé par Thierry Cliffat. Mais avant de développer tout cela, eh bien, nous avons au téléphone Antoine Leclerc, qui est directeur du festival Itinérance d'Alès, qui va débuter ce 25 mars et qui s'achèvera le 3 avril avec énormément de films. Bonjour Antoine Leclerc.
Bonjour Vincent.
Vous nous entendez bien ?
Oui, ça va, pas de problème.
Voilà, ce sont les précautions d'usage avant d'entamer cette interview. Alors, Festival Cinéma Itinérance d'Alès, 29e édition, c'est un festival qui dure. Hein.
C'est un festival qui dure et qui, j'espère, durera au-delà du 30e anniversaire l'année prochaine. Voilà, et on s'efforce de le faire durer dans un contexte pas toujours facile, mais c'est vrai que cette année encore, du 25 mars au 3 avril, on a concocté, je crois, un programme de plus de 200 films qui est à la fois pantagruélique, gourmand, et avec des accroches très, très différentes, de nombreuses avant-premières, des hommages, et je suis ravi de pouvoir vous en parler.
Alors donc, Itinérance, eh bien, y a souvent un thème, hein, une espèce de fil rouge et qui va autour. Ça porte bien son nom, hein, Itinérance. Donc là, ça, c'est le transport, les transports en commun qui a été choisi, hein, comme thème.
Oui, on a chaque année, alors ça ne fait pas tout le festival, mais il y a un volet thématique effectivement qu'on décline en une quarantaine de films. C'est à peu près un quart de notre programmation, une grosse quarantaine de films qui revisitent l'histoire du cinéma autour de l'intitulé Itinérance. Et là, on va jongler autour des transports en commun, en bateau, diligence, avec La Chevauchée Fantastique, par exemple,
de John Ford,
La Navea de Fellini. On va embrasser comme ça plus de 100 ans d'histoire du cinéma en partant inévitablement depuis l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, des frères Lumière, jusqu'à des films les plus contemporains. Donc effectivement, ce sera un peu le fil conducteur de cette 29e édition, parallèlement aux autres grandes sections que sont les hommages, les avant-premières, la compétition de courts-métrages, et puis aussi une très excitante carte blanche au pianiste Alexandre Tarot, puisqu'on aime aussi les divergences et les sauts, les à côté, les pas de côté avec d'autres disciplines artistiques. Et c'est vrai qu'on va accueillir à nouveau ce grand pianiste classique, mais qui est sans œillères et qui convie également son ami de l'univers de la pop, Albin de la Simone, pour un concert ensemble. Ce sera mardi prochain. Lui-même, Alexandre Tarot, accompagnera un film de Buster Keaton, La croisière du navigateur. Enfin voilà, on a pas mal de petites choses qui se précise dès vendredi, avec aussi la présence de Catherine Frou pour un bel hommage. Je crois qu'il démarrera avec Coup d'éclat de José Alcala.
Alors oui, ben on va parler, hein, parce qu'un festival, alors forcément ce sont des avant-premières, on en parlera un peu après. C'est une thématique là que vous avez choisie, donc une quarantaine de films avec des connus, des moins connus, et puis des invités. Alors on peut peut-être avant tout commencer par Phil Mulloy. Hein.
Alors, Phil Mulloy, c'est un excentrique anglais dont on passe régulièrement les pépites. C'est un cinéaste d'animation, mais qui n'est pas du tout pour les enfants. On passe beaucoup de films d'animation. On accueillera aussi Sylvain Chaumet cette année, par exemple, qui vient juste d'avoir le César du cinéma d'animation. On fait un focus sur le cinéma d'animation suédois. Mais cet anglais-là, Phil Mulloy, a fait des films qui sont extrêmement corrosifs, on peut dire antipolitiquement corrects, mais avec un sens graphique qui est vraiment très, très, très impressionnant. Il sera là, mais il arrive dès demain, puisqu'il installe une exposition qui sera à la médiathèque d'Alès, qui permettra de revenir sur son univers assez noir, mais avec aussi beaucoup d'humour féroce. Et il présentera l'avant-première de son tout nouveau film qui s'appelle Goodbye Mr. Christie. Ça sera samedi après-midi. Et on va, comme ça, pendant tout le week-end, pouvoir accompagner et découvrir quelques raretés de ce réalisateur d'animation pas comme les autres.
Dont on a parler, hein, Martin, tu as souvent parlé des films de Phil Mulloy. Hein.
Oui, c'est même la première émission, je crois, de Cinérama où j'avais parlé d'intolérance qui ressortait à l'époque au Diagonal.
Et qu'on va présenter, on présente une quasi-intégrale. Et c'est aussi l'occasion de saluer le travail d'un distributeur et éditeur exemplaire qui s'appelle ED Distribution, qui n'hésite pas à prendre des risques et à sortir des sentiers battus, ce qui nous plaît aussi.
Alors, deuxième invité, hein, vous l'avez déjà évoqué, c'est Catherine Froh. Alors, pourquoi avoir invité Catherine Froh?
Il y a plusieurs choses. D'abord, parce que c'est une excellente comédienne, ce qui en soi suffit.
Largement.
largement. C'est vrai qu'on a, dans l'histoire du festival, l'année dernière, il y avait tout un travail autour de Bernadette Lafont. L'année d'avant, on recevait Claudia Cardinal. Enfin, voilà, donc nous avons un petit personnel, je peux le dire, une passion pour pas mal de comédiennes. Et puis là, il y avait aussi cette occasion qui n'est pas toujours possible d'avoir à la fois une rétrospective de son travail en 6-7 films qui redécouvre l'univers de Clapiche, de Pascal Thomas qu'elle a marqué de sa présence, et puis aussi une avant-première, ça c'est assez exceptionnel, je crois, c'est Coup d'éclat qui était tourné d'ailleurs dans la région, pas loin,
à 7. À 7.
Voilà, donc ouvrir à la fois avec un film en avant-première et en même temps lancer cet hommage à cette comédienne, c'est, je crois, quelque chose de tout à fait formidable. C'est plus qu'une opportunité. Et on est vraiment ravis qu'elle nous accompagne ensuite toute la journée du samedi avec une rencontre en fin de matinée entre José Alcala, le réalisateur de Coup d'éclat, et elle, qui sera animée avec Languedoc-Roussillon Cinéma. Donc voilà, samedi, il y aura tout un parcours autour de Catherine Froh et puis qui se prolongera après pendant le festival, puisqu'on repassera le très bon Caval de Lucas Bellevaux, dans lequel elle est très, 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 très impressionnante. Hein.
Effectivement, Caval, hein, qui était un des films d'une trilogie de Lucas Bellevaux. Il y aura aussi Un air de famille, Mon petit doigt m'a dit, La tourneuse de page, Coup d'éclat, et puis Le vilain, le film d'Albert Dupontel.
Elle est assez étonnante dans le rôle d'une femme d'un certain âge, qu'elle n'a pas, je tiens à le préciser.
Oui.
Et elle est tout à fait bluffante. Hein.
Alors donc, Sylvain Chaumet, il y aura 3 films aussi et il sera présent, hein, Sylvain Chaumet, qu'on va peut-être pas présenter, c'est le réalisateur des Triplettes de Belleville et puis de L'Illusionniste l'année passée.
Oui, depuis qu'on a mis en place ce bel hommage, il a eu d'ailleurs le César du cinéma d'animation. C'est quelqu'un qui a un parcours intéressant, qui est passé par Montpellier d'ailleurs, avant de s'exiler au Canada, où il a pu finaliser La vieille dame et les pigeons, le court-métrage qu'il avait commencé à Montpellier, qu'il a imposé sur la scène internationale du cinéma d'animation, avant ensuite de vivre une longue période à Édimbourg, Édimbourg qui a pas mal influencé le graphisme de L'Illusionniste, adapté de Tati. Pour les connaisseurs, on reconnaît des choses. Et puis qui, depuis quelques mois, s'est installé dans la région, et tout près d'Alès, et qui nous fera qui sera à la fois membre du jury de notre compétition de court-métrage qui a lieu ce premier week-end du festival, samedi et dimanche, et qui reviendra le second week-end, donc tout début avril, pour témoigner de son travail, échanger avec le public.
Voilà, donc ça c'était Sylvain Chaumet. Alors on n'a pas le temps de parler de tout, hein. On a peu de temps avec vous, donc on précise aussi une rétrospective presque intégrale du travail de Yamina Benguigui qui sera aussi présente. Et puis, alors moi ce dont j'aimerais parler quand même, c'est ce qui fait aussi la force du festival, ce sont les avant-premières. Alors ça, je ne sais pas comment vous faites, mais vous en dégotez un sacré paquet. Hein.
Bah, c'est un travail qu'on lance très en amont. Enfin, qu'il y a un rapport de confiance avec pas mal de distributeurs qui fait que, qu'on présente une quarantaine d'avant-premières et d'inédits qui explorent un peu la planète cinéma. Et ça va, le nouveau film de Jerzy Skolimowski qui a démarré le cinéma avec Polanski et qui est un grand cinéaste polonais et qui signe là un film qui était un des chocs de la dernière Mostra de Venise qui s'appelle, je vais retrouver, j'ai un petit trou évidemment, Essential Killing avec Vincent Gallo, le film est très étonnant, au rayon des surprises également, la première incursion du musicien Gonzalez dans le domaine du cinéma avec Ivory Tower que présentera son réalisateur Adam Traynor, le nouveau film de Monty Hellman, enfin j'en passe, et des meilleurs, et puis même des pépites aussi qui sont inédites et bien qu'anciennes, je pense en particulier à un film de Fassbinder qui s'appelle Je veux seulement que vous m'aimiez,
oui.
Qui vient d'être retrouvé et restauré, qui n'était jamais sorti en France et qu'on va pouvoir découvrir très vite. Et ces avant-premières, il y en a tous les jours, plusieurs, et dès la soirée d'ouverture avec trois avant-premières qui vont s'enchaîner et qui nous emmèneront notamment en Australie, en Suède, avec Easy Money, un très bon polar nordique.
Et puis on le précise aussi, le samedi 2 avril de 21h30 à l'aube, il y aura la nuit des avant-premières avec moi, Michel G, milliardaire maître du monde, hein, qui va sortir au mois d'avril. Balada Triste d'Alex de la Iglesia, qui a remporté le Lion d'Argent à Venise. Et puis Rare Export, Christmas Tale de Jalmarie Elender.
Voilà, un film étonnant avec un Père Noël comme on n'en voit pas souvent. Ça va être une nuit des avant-premières en tout genre. Et il y a d'ailleurs un film surprise qui le clôturera. Pour être tout à fait honnête, il était surprise jusqu'à il y a 48 heures encore pour moi. Ça nous permet de visionner jusqu'à la dernière minute. Et je peux garantir un film extrême. Alors Extrême-Orient, extrême pour plein d'autres raisons. Donc les amateurs de nuit, de cinéma de genre seront les bienvenus à avoir un roboratif petit déjeuner. Puisque les deux samedis, nous avons des nuits du cinéma. Et qu'on conclut par des déjeuners pour ceux qui ont encore de l'appétit, ce qui, au vu des films, n'est pas garanti.
Alors Antoine Leclerc, donc on l'a dit, 200 films, donc on ne peut pas parler de tous les films. On va peut-être en terminer avec aussi bien une petite originalité du festival. C'est la thématique « La femme qui en savait trop ».
C'est le fruit d'une collaboration avec le Festival de Fribourg qui a lieu en ce moment en Suisse et que pilote un ami du festival, Édouard Wintrop, ancien journaliste de l'IB, qui a eu cette idée d'une rétrospective autour des femmes en noir, de femmes et polars, mais en prenant le contre-pied des archétypes habituels, c'est-à-dire une sélection de films où elle n'est pas que victime ou que femme fatale, mais où elle devient motrice. Et l'exemple type, c'est Gloria de Cassavetes, mais ça va être aussi des films d'Hitchcock, de Cukor, d'Ofuls, donc un maximum de plaisir cinéphilique en fin de festival. Voilà, donc ce sera la femme qui en savait trop. Certains disent que c'est un pléonasme, mais je ne sais pas.
Eh bien voilà, on a fait un petit tour pour savoir ce qui se passe donc à Alès du 25 mars au 3 avril. On peut préciser que bien toutes les infos, tous les films, les 200 sont notifiés sur votre site internet www.itinérance.org.
Au pluriel.org, itinérance.org. Absolument. Merci.
Eh bien, bon courage pour ce festival et bon courage pour organiser ensuite la 30e édition. Voilà.
Ok, merci. À bientôt. Au revoir.
Et on va retrouver ma part du gâteau, le film de Cédric Lapiche. Écoutez un petit extrait des Triplettes de Belleville, la bande originale.
Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Je veux
extrait de la bande originale Les Triplets de Belleville, film d'animation de Sylvain Chaumet, qui sera donc présent au festival Itinérance d'Alès du 25 mars au 3 avril, aux côtés de Catherine Frou, Phil Mulloy et bien d'autres. Toutes les infos donc www.itinérance.org. Nous passons maintenant à Ma part du gâteau, le film, dernier film de Cédric Clapiche. Tremblay, Bill Gates, Bolloré, Lagardère et autres Steve Jobs, voilà vos vilaines manières de milliardaires, votre immoralité et votre inhumanité dénoncée par Cédric Clapiche pour son dernier long métrage, Ma part du gâteau, avec Karine Viard dans le rôle de la prolo Les pieds sur terre et Gilles Lellouche dans le rôle de l'enflure sans cœur et sans scrupules et plein aux as. Alors si Cédric Clapiche n'a pas fait que des bons films, il a su quand même entretenir un cinéma populaire où la belle image compte autant que les acteurs et les sentiments. Le Péril jeune, Chacun cherche son chat ou L'auberge espagnole sont des films drôles, attachants et générationnels qui ont trouvé leur public. Ma part du gâteau va sur un autre terrain. Alors on reste dans la légèreté car il s'agit d'une comédie, mais Clapiche, pour dénoncer le capitalisme sans conscience, a besoin d'un gros méchant qu'il a trouvé avec Gilles Lellouche. Un type qui œuvre dans la finance à Londres, dans la partie la plus dégueulasse, celle qui ne fait pas de demi-mesure. Une société se retrouve avec des dettes, il va accentuer sa chute, non sans mettre en place par le biais d'actions un moyen d'en tirer un large profit. Alors il fait ce boulot et le fait bien, et pour le faire bien, il faut être très très méchant, mais aussi avoir un costume nickel, plusieurs écrans d'ordinateur et la niaque. Il a beaucoup d'argent et on voit très vite qu'il ne sait pas quoi en faire. Disons plutôt qu'il a une envie, il la concrétise. Et c'est toujours bling bling. Avec ce personnage de Stéphane, appelé Steve, et oui c'est mieux, on est très vite dans l'outrance, dans l'image publicitaire des pouvoirs de l'argent. Tu veux une femme, tu l'emmènes à Venise avec ton avion. Tu veux que ton appartement au 15e étage avec vue sur la tour Eiffel soit bien rangé sans acarien. Tu fais venir une femme de ménage. Et quand tu es Steve, l'argent permet de ne pas se poser trop de questions et ne pas te salir les mains puisque tu peux payer des gens pour faire la sale besogne. C'est là qu'intervient le deuxième personnage, la femme de ménage en question. C'est France, interprétée par Karine Viard. Elle a perdu son boulot à Dunkerque du fait d'une délocalisation en Chine de son usine. Sans le sou, divorcée, avec 3 enfants, elle monte à Paris et est accueilli par le père d'une de ses connaissances, interprété par Zinedine Soualem, qui, plus il accepte de rôle, plus il se retrouve à jouer les stéréotypes de l'immigré bon et généreux.
Et sinon, Sofiane m'a dit que vous faisiez cette formation, mais que pour des femmes immigrées.
Ah oui, en général, on essaye d'aider surtout les gens vraiment défavorisés.
Ben moi, je me sens assez défavorisée, hein, avec mon licenciement.
Non, bien sûr. C'est vrai qu'avec leur délocalisation, vous êtes comme une femme immigrée dans votre pays.
Oui, c'est vrai, c'est à peu près ça.
Voilà, mais en tout cas, chez moi, vous êtes ici comme chez vous.
Merci. Et si je suis votre formation, à votre avis, je vais pouvoir trouver du travail assez rapidement?
Bon, chez Cali Propreté, on ne garantit pas forcément directement du travail. Mais ce qu'on garantit, c'est savoir-faire.
Ok. Et donc, je peux suivre votre formation?
Oui. Mais je peux vous demander un petit service?
Bah oui, bien sûr.
Voilà, c'est à cause des autres femmes qui sont en formation. Si vous pouvez, par exemple, prendre un accent.
Prendre un accent?
Si ça vous gêne pas.
Non.
Parce que vous savez, si elle voit que vous êtes française, ça va faire bizarre.
Ah. Bah oui, mais je pourrais venir d'où, à votre avis?
Ouais, c'est comme vous voulez, Portugal, des pays de l'Est, Lituanie, Ukraine, comme...
Tak, Postrenyaka.
Voilà, c'est...
France, c'est une femme simple qui n'a pas d'avis moral sur la puissance de l'argent. Disons qu'elle en veut pour éduquer ses enfants. Alors attachée au service de Steve, qui revient sur Paris pour se constituer une bonne part du gâteau, elle va être son antithèse, les pieds sur terre, la tête bien faite et sympa comme lui est ignoble. C'est donc un match prolo contre riche qui se joue dans Ma part du gâteau, avec une part d'inconnu, un enfant qui déboule dans les pattes de Steve. Le sien, on en est sûr, mais lui, le rôle de père, il ne sait pas bien ce que c'est. Mais France est là, alors suffit de payer pour qu'elle s'en occupe. La différence de caractère et de niveau social entre les deux personnages est propice à la comédie. Elle serait romantique si Clapiche se la joue à la Pretty Woman, mais au détour d'une scène dans un Lidl, Clapiche s'en moque avec élégance. Ça reste donc une comédie sociale qui a l'avantage pour certains d'être légère et plaisante malgré son sujet. Alors les Anglais, tels un Mike Lee ou un Ken Loach dans Un bon jour, en auraient fait un objet filmique un peu plus grinçant. Avec Clapiche, l'image est belle comme dans la pub, ou plutôt elle s'adapte au milieu qu'elle capte, un peu moins belle quand nous sommes à Dunkerque et radieuse, lisse quand nous sommes à Venise, Paris ou Londres. Le réalisateur opère lentement par comparaison des milieux. Il suffit de montrer où les deux personnages habitent, quelques pans de leur vie pour faire apparaître les différences. Donc il fait une comparaison des milieux jusqu'à rester fixé sur l'enflure de Steve. Alors Steve est-il un cliché ambulant ? L'image qu'on se fait d'un trader qui se fout par ses manœuvres spéculatives de mettre des hommes et femmes au chômage, Steve est-il un miroir fidèle ? Si c'est le cas, c'est effrayant. Et jusqu'au bout, car si le Steve, on le croit changé au contact de la gentille France, il n'en est rien. Et si on pense que la féminité dans le monde de la finance change quelque chose, eh bien non. Fini la part de féminité. Clapiche nous informe que dans ce monde de requins, qu'on soit homme ou femme, on est les représentants d'une même morale qui se résume à peu de mots, être le plus fort, dominer plutôt qu'être dominé. Alors le rythme est bon, les séquences s'enchaînent, les acteurs sont impeccables, les scènes comiques ici et là fonctionnent, jusqu'à l'accélération finale qui, à mon sens, partagera le public. Certains en tireront une morale, d'autres pas. Une séquence finale invraisemblable, c'est en cela qu'elle est manquée. Là, c'est clairement la mise en scène qui est en cause. Ce qui s'y déroule fait plonger le film dans une reconstitution à la TF1, mais ça reste une séquence qui marque bien le rapport de force qui s'exerce entre ceux qui grignotent le gâteau artificiel du capitalisme et ceux qui se partagent les miettes. Donc un très bon film, me semble-t-il, de Clapiche, qui devrait ravir à peu près tout le monde, sauf donc cette petite réserve sur la scène finale qui peut gâcher un peu le plaisir. À noter la présence dans quelques scènes de Xavier Mathieu, le plus véhément des Conti, les fameux Conti, donc les ouvriers de l'usine Continentale, qui avait avec ses compagnons mis le bazar dans la sous-préfecture de Compiègne. Donc il y joue son propre rôle, c'est-à-dire un syndicaliste. Moi je regrette qu'il n'ait pas plus de paroles finalement, parce que écoutez ce qu'il dit à la télé.
J'ai regardé une émission un soir sur TF1 où tous les visages des mecs étaient floutés. Quand ils interviewent des pédophiles, des gangsters, ils floutent les images. Mais des ouvriers qui se révoltent dans une sous-préfecture, on ne floute pas les images, on oublie de les flouter. Ouais. C'est les seuls. Dans cette sous-préfecture, il y avait 7 télés. Les 7 nous ont dit, les journalistes, t'inquiète, on va flouter les images. Il n'y en a qu'un qui ne l'a pas fait, c'est TF1.
Allez, voilà, comme ça c'est balancé. Donc, ma part du gâteau de Cédric Clapiche est projetée un peu partout.
Alors, on va passer à un autre film, et puis au dossier consacré au Philip K. Dick, puisqu'aujourd'hui sort en salle The Adjustment Bureau, l'agence en français, un film de science-fiction réalisé par George Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt et Tyrone Stump. Il s'agit donc de la 11e adaptation pour le cinéma d'une œuvre de l'écrivain américain Philip K. Dick, l'occasion rêvée pour entamer un copieux dossier sur cet auteur fascinant que le cinéma affectionne particulièrement, pour le meilleur et pour le pire. Alors, qui était Philip K. Dick ? Eh bien, nous sommes en 1928, en plein hiver. La crise économique bat son plein et ravage le pays quand Dorothy Kindred Dick met au monde deux jumeaux, Philip et Jane Charlotte. Alors, malheureusement, les jumeaux manquent de lait et de soins appropriés et la petite Jane meurt quelques semaines plus tard. Cette disparition devait marquer le survivant à vie. De la perte de sa jumelle, Philip gardera une fascination pour la dualité et la mort, des sujets fondamentaux qu'on retrouvera plus tard dans ses œuvres de fiction et aussi dans ses essais. Alors rapidement, le jeune Dick fait preuve d'un certain talent pour l'écriture et l'imaginaire débridé. Il s'intéresse très tôt à la science-fiction, à la fantasy, et il vend sa première nouvelle alors qu'il a seulement 23 ans. 4 ans plus tard, il publie son premier roman, « Loterie solaire », et suivront de nombreux textes que la critique spécialisée finira par récompenser en 1963 en attribuant le prix Hugo, le plus célèbre prix pour la littérature de science-fiction, voilà, à son livre Le Maître du Haut-Château. Donc l'écriture étant sa seule source de revenus, Dick consomme très tôt des amphétamines pour augmenter son rendement. En 1963, il écrit par exemple 6 romans d'affilée, et cette dépendance aux amphétamines ainsi que les thématiques psychédéliques de plusieurs de ses histoires lui valent une aura d'écrivain drogué, alors que selon ses biographes, il n'aurait consommé qu'une ou deux fois du LSD et n'en gardait pas un très bon souvenir.
Sa drogue de départ, c'était les amphétamines, parce qu'elles lui permettaient d'écrire 36 heures de suite sans dormir. Arrivant quelquefois à écrire des romans admirables de surcroît, en quelques jours, 15 jours, 3 semaines maximum.
Il avait un côté schizophrénique paranoïaque qui était développé et qui faisait que c'était comme si c'était avec des drogues. Bon, en même temps, il en a pris, c'est pas vrai. Mais en même temps, c'était pas un groupe psychédélique non plus. Je veux dire, il faut pas réduire son œuvre à une espèce d'apologie des drogues. Enfin, c'est pas possible d'écrire substance mort sans avoir pris de drogue.
On a longtemps cru que Dick était bourré d'acide pour écrire. On a appris après qu'en fait il avait pris un seul trip dans sa vie, que ça s'était mal passé, qu'il avait plus jamais voulu recommencer. Mais c'est d'autant plus fort d'avoir retrouvé les sensations, le voyage et les leçons mentales que tu peux tirer d'un trip, de l'avoir retrouvé sans produit chimique. C'est beaucoup plus fort. Bravo Philippe.
Voilà donc cette légende qui entoure un peu Philippe K. Dick. On entendait plusieurs intervenants du documentaire Addicted de Thomas Casal consacré à l'écrivain. Alors les œuvres de Dick appartiennent pour leur grande majorité au genre de la science-fiction, même s'il a écrit un certain nombre de romans réalistes. La plupart de ses histoires se déroulent dans le futur ou dans l'espace, mais Dick utilise ses lieux communs de la SF pour parler de la vie quotidienne. Ses personnages sont confrontés à des problèmes banals plutôt qu'à de grandes aventures épiques. Les postulats de science-fiction que Dick utilise servent surtout à amplifier la réalité pour mieux poser des questions d'ordre moral, éthique, psychologique ou métaphysique. Si on cherche à synthétiser, il y a deux grandes interrogations qui courent tout au long de ses œuvres et auxquelles il tentera de répondre jusqu'à sa mort en 1982. La première peut se résumer par cette question « Qu'est-ce que c'est qu'être humain ?» Une question qui est portée dans ses livres par l'opposition entre androïdes et humains, par exemple. Et la seconde question, la voici, c'est « Qu'est-ce que la réalité ? »
La grande idée qui est à la base, il me semble, de l'œuvre de Dick, c'est une espèce de doute sur la nature de la réalité. C'est l'idée que la réalité, ce sur quoi on s'accorde à peu près tous et qu'on appelle réalité, Dick est dans le doute là-dessus, dans l'idée, oui, et si ça cachait autre chose.
Voilà, donc un autre extrait du documentaire Addicted de Thomas Casal, c'était Emmanuel Carrère, scénariste et écrivain, et qui a écrit une biographie de Philippe K. Dick intitulée « Je suis vivant et vous êtes mort ». Alors toute l'œuvre de Dick découle de ces deux questions capitales, son intérêt pour les simulacres, les mondes virtuels, les faux humains, les androïdes, la drogue et les manipulations médiatiques, tout vient de ce doute quant à la réalité et quant à la nature de l'humain. C'est une des raisons de la paranoïa chronique qu'on rencontre dans sa littérature, mais aussi dans la propre vie de l'auteur.
La surprise est une sorte d'antidote à la paranoïa. Vivre de manière à rencontrer de nombreuses surprises, voilà qui montre que vous n'êtes pas paranoïaque. Pour le paranoïaque, il n'y a pas de surprise. Tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Tout rentre dans son système. Pour nous, il ne peut pas y avoir de système. Nous devons nous contenter du mystère, de l'absurdité, des contradictions, de l'hostilité, mais aussi de la générosité que nous témoigne notre environnement. C'est peu, mais c'est toujours mieux que la certitude défaitiste et mortelle du paranoïaque.
Voilà, Léon Mercadet, donc un ancien journaliste d'Actuel qui citait une interview avec Philippe K. Dick. Donc Dick ne rencontre jamais le vrai succès de son vivant, à part en France, où ses idées d'extrême gauche et le mélange de science-fiction et de littérature traditionnelle qu'on trouve dans ses livres lui valent l'intérêt de la critique et des lecteurs. Ce n'est finalement qu'à la fin de sa vie que l'auteur commence à être mis sous les feux des projecteurs, et cela grâce au cinéma. Une situation qui peut sembler paradoxale alors que Dick a passé sa vie à dénoncer les faux-semblants et les manipulations médiatiques. Pourtant, Dick ne détestait pas le cinéma, il avait beaucoup apprécié les films de Stanley Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace et Docteur Follamour, ainsi que L'homme venu d'ailleurs de Nicolas Roeg avec David Bowie. Dick a même écrit deux scénarios, l'un pour la série télé Les Envahisseurs, dont le côté hautement paranoïaque lui plaisait beaucoup, et un autre scénario, une adaptation pour le cinéma de son roman Ubique, un projet qui ne vit malheureusement jamais le jour, mais dont le scénario a été traduit et publié en France aux éditions Les Moutons Électriques. Alors on va laisser de côté un petit peu la littérature pour nous intéresser maintenant aux adaptations cinématographiques des œuvres de Philippe K. Dick.
Notre hibou vous plaît ?
Il est artificiel ?
Bien sûr qu'il l'est.
Doit pas être bon marché.
Une fortune. Je m'appelle Rachel.
Deckard.
Alors il paraît que vous ne trouvez pas notre travail bénéfique.
Les réplicants sont comme les autres machines. Ils sont ou bénéfiques ou nocifs. S'ils sont bénéfiques, c'est pas mon problème.
Pourrais-je vous poser une question personnelle ?
Bien sûr.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur ?
Non.
Mais dans votre métier, il y a toujours un...
Est-ce un test de compatibilité? Dilatation des vaisseaux capillaires pour une réponse embarrassée? Oscillation de la pupille? Dilatation involontaire de l'iris?
Le test de Voight-Kampff dans notre jargon.
Monsieur Decker, docteur Eldon Tyrell.
Montrez-nous cela. Je veux voir un essai.
Où est le sujet?
Je veux voir un essai sur une personne, sur un sujet négatif, avant de vous procurer un sujet positif.
Qu'est-ce que ça prouvera?
Faites-moi plaisir.
Sur vous?
Essayez sur elle.
Alors, sorti en 1982, Blade Runner de Ridley Scott a été la première adaptation de Dick pour le cinéma. Alors, le film est basé sur le livre Do Android Dreams of Electric Sheep? Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Et Blade Runner s'éloigne assez radicalement du contenu du roman pour proposer sa propre vision de l'univers dickien. Alors, le livre, écrit en 1966, nous entraîne dans un futur lointain, janvier 1992, quand même. La Terre a été ravagée par une guerre nucléaire et la quasi-totalité de la faune a disparu. Alors, Rick Deckard est un policier spécialisé dans la traque et l'élimination d'androïdes évadés. Il accepte un gros contrat dans l'espoir de remplacer son mouton électrique par un véritable animal, un signe ostensible de richesse qui fera enfin cesser les quolibets de ses voisins plus fortunés. Donc Descartes se retrouve à poursuivre et à abattre des simulacres d'humains pour s'acheter un authentique quadrupède à poil. Donc si Ridley Scott et ses scénaristes conservent les grandes lignes du roman, de nombreux éléments disparaissent lors du passage de l'écrit à l'écran. La différence la plus importante concerne bien sûr les animaux artificiels. Dans le roman, cette idée est présente dès le titre et éclaire les motivations du personnage principal. Par contre, dans le film, la faune artificielle n'a qu'une place anecdotique. On l'entendait dans le petit extrait à propos du hibou artificiel. La dimension écologique du roman n'est donc plus aussi présente dans le film, qui utilise d'ailleurs un contexte qui n'est pas post-apocalyptique. Alors un autre point de divergence entre le livre et le film, c'est le doute qui plane au sujet de la nature de Deckard. Alors par de petites touches discrètes, Ridley Scott suggère que le Blade Runner serait peut-être lui aussi un androïde, un détail que Dick n'avait pas inclus dans son roman, mais qui rappelle de façon assez claire la paranoïa et les interrogations relatives au genre humain qui sont récurrentes dans ses textes. Alors d'autres éléments du livre ont également disparu, comme le mercerisme, cette religion officielle que les gens pratiquent grâce à des machines à prière, les boîtes à empathie, qui permettent aux humains de communier dans un monde virtuel auquel les androïdes n'ont pas accès puisqu'ils ne peuvent pas éprouver d'empathie. Donc dans l'ensemble, le film Blade Runner se focalise principalement sur l'aspect policier du roman et n'accorde que peu de place à la psychologie des personnages. Les longs développements sur ce qui caractérise l'homme ont disparu pour être remplacés par des interrogations différentes que l'auteur lui-même considérait comme pertinente, puisque Dick a pu voir certaines bobines de Blade Runner quelques mois avant sa mort, et après avoir longtemps rejeté le sujet, il avait déclaré que la vision de Ridley Scott complétait de façon assez intelligente son roman.
Ce n'est pas facile de rencontrer son créateur.
Et que peut-il faire pour vous?
Le créateur peut-il réparer ce qu'il a fait?
Est-ce que vous souhaitez être modifié?
J'avais à l'esprit quelque chose de plus radical.
Quoi? Qu'est-ce qui vous pose un problème?
La mort.
La mort? Mais j'ai bien peur que ce soit en dehors de ma juridiction.
Je veux plus de vie. Père!
Alors, la deuxième adaptation de l'œuvre de Dick pour le cinéma a été mise en chantier dès 1974, donc longtemps avant la sortie en salle de Blade Runner. D'abord proposé au studio Disney, le scénario qui allait devenir celui de Total Recall n'a pas séduit la firme aux grandes oreilles, et c'est finalement Dino De Laurentiis, producteur légendaire de Conan le Barbare, Dead Zone et L'Année du Dragon, qui achète le script et le confie à David Cronenberg. Donc pendant presque un an, le réalisateur de Vidéodrome travaille sur le projet, jusqu'à ce qu'on lui fasse remarquer qu'il n'avait absolument rien compris. Dans un entretien, il raconte qu'après plusieurs mois de travail, le scénariste du film vient le voir et lui dit « Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu fais une version fidèle à Philip K. Dick ?» Alors Cronenberg répond « C'est pas ce que je suis censé faire. » Ce à quoi on lui rétorque « Non, ce que nous voulons, c'est les aventuriers de l'Arche perdue vont sur Mars. » Donc Cronenberg quitte le projet et c'est finalement Paul Verhoeven qui est propulsé aux commandes du film. Alors réécrit pour convenir à la star Arnold Schwarzenegger, qui endossera le rôle principal, Total Recall s'éloigne assez radicalement de la nouvelle originale, Souvenir à vendre.
Chez Kadik, le personnage principal, Douglas Quayle, rêve d'aller sur Mars mais ne peut pas se payer le voyage. Il décide donc de faire appel à une agence spécialisée qui implante chez ses clients des faux souvenirs de voyage à la carte. Mais pendant la procédure, notre héros découvre qu'il a réellement été sur Mars en tant qu'agent secret et que sa mémoire avait été effacée. Donc s'ensuit une course-poursuite qui se conclut par un compromis. Les souvenirs de Douglas seront effacés à nouveau et recouverts par d'autres fantasmes issus de la prime enfance.
Bon, voyons voir. Le forfait sans option pour Mars vous coûtera 899 crédits. Ça, c'est pour 2 semaines complètes de souvenirs, précis jusqu'au moindre détail. Pour un voyage plus long, c'est un peu plus cher parce que l'implant est plus profond.
Et c'est quoi le forfait, 2 semaines ?
D'abord, laissez-moi vous dire une chose, chez Recall, c'est du souvenir premier choix qu'on vous propose. Cabine individuelle dans la navette, somptueuse suite au Hilton, visite guidée, le Mont Pyramide, le Grand Canal et bien entendu, Vénusville.
Oui, mais franchement, ça a l'air vrai.
Aussi vrai que n'importe lequel de vos souvenirs.
Voyons, ne vous foutez pas de moi.
Ah non, je vous assure, votre cerveau ne fera aucune différence, c'est garanti, vous êtes remboursé.
Et le mec que vous avez lobotomisé, il a été remboursé ?
Alors la première partie du film est assez fidèle à la nouvelle, mais dès que Arnold Schwarzenegger embarque pour Mars, le film invente sa propre histoire. Pourtant, Total Recall regorge de petits détails qui prouvent que Paul Verhoeven et ses scénaristes comprenaient parfaitement l'œuvre de Philip K. Dick. Les robotaxis, les mutants martiens, la cupidité du pseudo-gouvernement de la planète rouge... Tout ça semble sorti d'un roman de l'auteur, et la preuve la plus évidente de cette fidélité, c'est sans doute l'ambiguïté qui plane en permanence sur ce que vit le héros. Est-ce qu'il est en train de rêver son voyage comme prévu, tranquillement installé sur Terre, ou est-ce qu'il est en train de vivre réellement toutes ses péripéties sur Mars ? Alors une scène en particulier du film qui n'était pas dans la nouvelle originale met un peu plus le doute dans l'esprit des spectateurs.
Que voulez-vous ?
Ah, ça va être très difficile pour vous à accepter, Monsieur Quayle.
Je vous écoute.
J'ai peur que vous ne soyez pas réellement ici devant moi.
Vous savez, docteur, vous avez failli me la faire.
Oh, mais je suis très sérieux. Vous n'êtes pas ici. Et moi non plus, d'ailleurs.
C'est la meilleure. Et où sommes-nous ?
Chez Recall. Vous êtes attaché au fauteuil d'implantation et je vous surveille depuis le pupitre de contrôle de la psychosonde.
Ah oui, c'est un rêve, je comprends. Et tout ça fait partie des merveilleuses vacances que votre entreprise m'a vendues, c'est ça ?
Pas tout à fait. Ce que vous vivez est une hallucination improvisée que notre banque de mémoire a amorcée, mais dont vous inventez la suite au fur et à mesure.
Mais si c'est moi qui hallucine, qui vous a demandé de venir ?
On m'a implanté artificiellement pour endiguer le processus. Je suis navré d'avoir à vous le dire, vous faites une embolie schizophrénique, mais ce n'est pas un claquement de doigts qui peut vous en sortir. Et on m'a envoyé pour vous aider à redescendre.
Coogan vous paye combien pour ça ?
Quayle, réfléchissez. Votre rêve a commencé au milieu de la procédure d'implantation. Après cela, les poursuites, le voyage sur Mars, votre suite au Hilton sont tous des éléments du programme de vacances de Recall et de votre croisière Ego. Vous avez pris un forfait d'agent secret.
Connerie, c'est une coïncidence.
Et que faites-vous de la fille ? Brune, athlétique, réservée et vicieuse, conforme à la demande, c'est une coïncidence ?
Non, elle est vraie. J'avais rêvé d'elle avant d'aller chez Recall.
Oh, Monsieur Quayle. Entendez-vous ce que vous dites ? Elle est vraie parce que vous avez rêvé d'elle.
Exactement.
Alors jusqu'à la fin, le doute voilà, sur est-ce que Quayle est en train de rêver ou pas, eh bien ce doute est maintenu et le film se termine d'ailleurs sur ces mots.
J'arrive pas à y croire, c'est comme un rêve. Qu'est-ce que tu as ?
Je viens d'avoir une idée horrible. Et si ce n'était vraiment qu'un rêve ?
Alors dans ce cas, embrasse-moi vite avant de te réveiller.
Voilà donc un ultime pied de nez et un hommage direct à plusieurs romans de Philip K. Dick, dont le plus célèbre Ubik, qui se termine lui aussi sur une remise en cause de la réalité. Donc voilà, si Total Recall est avant tout un blockbuster d'action-aventure taillé pour Schwarzenegger, il représente malgré tout une belle appropriation des thématiques dickiennes par Paul Verhoeven. Alors le troisième film dont je veux parler aujourd'hui a une place à part parmi les adaptations de Dick. Il s'agit de Confession d'un Barjot de Jérôme Boivin, sorti en 1992 avec Richard Boringer, Anne Brochet et Hippolyte Girardot. Alors déjà, c'est le seul film qui n'est pas anglo-saxon, mais français, et c'est aussi la seule adaptation d'un roman de littérature générale de l'auteur. Nous ne sommes donc pas dans la science-fiction, mais dans une forme d'autobiographie romancée. Donc dans ce livre, Dick transpose des éléments de sa vie avec sa troisième femme, Anne Rubinstein, et dresse le portrait de quatre personnages hauts en couleur. Il y a Faye, une femme forte et intelligente qui vit avec son époux Charley dans la banlieue de Los Angeles. Il y a Isidore, le frère de Faye, accessoirement le barjot du titre. Et il y a Nathan, un autre homme qui va devenir l'amant de Faye. Donc quand sa maison brûle, Isidore est recueilli par sa sœur, ce qui va provoquer toute une série de bouleversements qui se concluront de façon assez dramatique.
T'as pas bientôt fini ton cirque ?
Charles ! C'est toi, Charles ? T'es revenu déjà ?
Revenu où, pauvre con ?
Bah là, sur Terre, là, le grand retour de toutes choses !
Ha 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 ! T'entends ? Ha 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 ! Tu vas pas recommencer tes conneries ! T'as rien compris ?
Compris quoi, Charles ?
Compris quoi, Charles ? Oui. C'est dans ta tronche de barjot, la fin du monde. La fin du monde, elle reste. Dans ta pauvre tronche de barjot. Il ferait mieux de t'occuper d'elle.
Qui ?
Ta sœur.
Tu vois pas qu'elle est écrasée de chagrin ? Elle tient plus en l'air. Merde, je pensais pas qu'elle aurait autant de chagrin. Elle arrive pas à pleurer. C'est à l'intérieur, mais ça veut pas sortir. Tu vois, mon pote, ça, c'est du réel. C'est de la vraie douleur. C'est du vrai chagrin. C'est pas comme tes histoires à la con sur la fin du monde. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas pas la laisser, non ? Allez, vas-y, prends-la dans tes bras.
Je te dis, prends-la dans tes bras. Hein ? Allez, vas-y.
Elle va pas se mettre en rogne.
Hein ? C'est parce que tu volais depuis le début, non ? Eh ben, ça y est, t'as gagné, t'y es maintenant. Allez, vas-y, prends-la. Ah, serre-la fort. Serre-la fort. Fais sortir le chagrin. Allez. Voilà, comme ça. Comme ça. C'est bien. Allez, maintenant, partez. Allez dans la maison. Il y a les filles qui vous attendent. Rentrez à la maison. Allez.
Alors, le principal reproche qu'on peut faire à Jérôme Boivin, c'est d'avoir pris une histoire qui se déroule dans les années 50 en Californie et de l'avoir transportée dans le sud de la France des années 90. Les nombreuses références spatiales et temporelles du roman original disparaissent pour laisser place à d'autres, issus de la culture française moderne, et la psychologie des personnages s'en trouve bien évidemment modifiée, même si Boivin parvient à garder une certaine cohérence dans son adaptation. Finalement, la classe moyenne française n'est pas si différente de celle qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, et en 40 ans, les préoccupations n'ont finalement pas tant changé que ça. Les problèmes au sein d'un couple restent les mêmes, tout comme les rapports compliqués entre frères et sœurs. Et finalement, la plus grosse différence vient de l'humour proche du vaudeville que Boivin met en place dans son film. Le ton souvent grinçant et cynique de Dick s'en trouve bien édulcoré. Alors, est-ce que le film de Boivin propose des éléments qui ne sont pas dans le roman original, mais qui font directement référence à la biographie de Dick ? Le frère et la sœur deviennent des jumeaux, en référence à Philippe et Jane Charlotte, et le barjot subit quelques hallucinations clairement empruntées à l'écrivain. Voilà, donc Confession d'un barjot, un petit film rare et attachant que je vous conseille. On écoute encore un petit extrait.
Eh hey Charles, pars pas ! Charles !
Qu'est-ce qu'il y a encore ?
T'en vas pas ?
Mais ça ira, mon petit père ! T'as bien vu, le monde s'est pas arrêté de tourner, il va continuer. Un jour, tu vas travailler, tu vas te dire, je suis guéri. Tu seras juste un peu moins con. Tu seras comme les autres. T'apprendras l'orgue électrique. Les filles auront la varicelle. Michel retournera vivre avec sa femme. Et Fanfan pensera à moi. De temps en temps. Surtout en rentrant à la maison. Il y aura bien d'autres types dans sa vie. Deux, trois imprudents déposeront les valises. Mais avec toi et elle, je pars tranquille. Le temps passera, les feuilles tomberont, vous les ramasserez à l'appel. Vous vivrez vachement vieux. Et vous ferez chier un maximum de joie. Et les filles se marieront. Et puis j'en ai marre. Faut que j'aille. Je suis crevé.
Voilà donc pour ce survol des premières adaptations de Dick pour le cinéma. Alors à travers ces trois films, l'essentiel est dit. Les deux thématiques centrales de la littérature de Philip K. Dick ont été transposées au cinéma. Avec Blade Runner, ce sont les questions sur les simulacres humanoïdes et la nature de l'humain qui ont été abordées. Et avec Total Recall, la question de la réalité et du rêve. Enfin, Confession d'un barjot cristallise la volonté qu'avait Philip K. Dick de mélanger réalité et fiction au sein de ses œuvres. Il cherchait à trouver un juste équilibre entre la science-fiction et la littérature générale, en parsemant d'éléments biographiques, ces histoires incroyables de réalité truquée et d'exploration extraterrestre. Voilà, donc la semaine prochaine, je m'intéresserai aux autres films adaptés de l'œuvre de Dick, de Planète Hurlante à Minority Report, en passant par A Scanner Darkly et le dernier en date que vous pouvez aller voir dès aujourd'hui dans les salles, L'Agence. Mais avant de vous laisser, une petite page de pub.
Well, I'm Terry Gilliam, and
Welcome to my drab little world. I've used PKD for years. It has brought brightness, sparkle, flair to my life and to my plates. It can do to you as well. One thing today I'd like to share with you, though, is a secret. Despite manufacturers' warnings, I use PKD washing up liquid to unclog my brains. Why don't you?
Voilà, c'était Terry Gilliam qui vantait les mérites de l'aérosol PKD pour Philip K. Dick dans le documentaire consacré à l'écrivain Day in the Afterlife de Nicolas Roberts.
Merci beaucoup Martin, et donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce dossier que je qualifierais de passionnant.
Merci.
Si tu l'acceptes. Les yeux de sa mère maintenant, réalisé par Thierry Cliffa, avec Catherine Deneuve, Géraldine Pellas, Nicolas Duvauchel, Marina Foïs, Jean-Marc Barr, et puis un petit nouveau quand même, pas très connu, Jean-Baptiste Lafarge. Alors autant le dire tout de suite, Thierry Cliffa n'a jamais eu de soucis avec le casting de ses films. Quand certains attendent le deuxième, voire le troisième long métrage pour espérer décrocher un budget, pour engager une star de l'écran, lui, dès son premier film, Le chassé-croisé sentimental, Une vie à t'attendre, on retrouvait Patrick Bruel, Géraldine Pellas et Nathalie Baye. Et puis dans ceux qui suivirent, il y eut Catherine Deneuve, Emmanuel Béard et Gérard Lanvin. Donc côté casting, Les yeux de sa mère s'annoncent intéressants avec tous ces acteurs confirmés, mais ça se gâte avec le scénario. Thierry Cliffa, avec son scénariste Christopher Thompson, le réalisateur de Bus Palladium, nous embarque dans une œuvre romanesque qui tire vers le mélo dépressif. C'est une histoire de filiation. Alors il y a d'abord Catherine Deneuve qui interprète une Claire Chazal obnubilée par sa carrière et qui n'a jamais été présente auprès de sa fille. Sa fille, interprétée par Géraldine Pellas, qui elle est carrément danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Alors on l'apprendra assez vite. Pellas a plus ou moins reproduit le schéma affectif de sa mère, mais en plus radical encore. Entre ces deux femmes, il y a un homme, Nicolas Duvauchel, un jeune écrivain fouille-merde qui écrit des livres portraits à scandale. Alors lui, il a perdu sa mère et ne s'en est pas remis, à tel point que ce séduisant jeune homme mystérieux et sérieux n'a pas changé la déco de l'appartement familial qu'il a récupéré il y a déjà quelque temps. Il est resté complètement figé. Ce personnage masculin est le pivot narratif du film. Il fera en sorte d'être le proche collaborateur de la star du 20h et en même temps, il sera le confident de sa fille, la danseuse étoile, car il se trouve qu'il l'a déjà rencontré à l'occasion d'un stage à l'Opéra Garnier. Alors ni la mère ni la fille ne connaissent ses projets car elles ne savent même pas qu'il les côtoie toutes les deux. Et comme c'est un fouille-merde, il va s'arranger pour aider la danseuse étoile à renouer avec son passé enfoui et se montrer indispensable en tissant une nouvelle relation avec un jeune homme qui ne demandait rien à personne. Une fois posé tout cela, on peut écouter la bande-annonce.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Un écrivain doit rendre compte de tout ce qu'il voit et entend. Il n'y a pas de sujet tabou. Si les gens se comportent mal, notre rôle c'est de les traquer.
Bon, tu commences quand ?
J'ai déjà commencé.
Je voudrais saluer la présence de Léna Weber.
Loin de moi, je suis venue me résister. Jamais de problème avec toi, c'est formidable.
Et ça, c'est quoi ?
Ça, c'est Maria Canales, la fille de Léna Weber.
Maria ?
On se connaît ?
On se connaissait. Je suis écrivain.
Ah oui, je suis nouveau. Puis une histoire d'enfant aussi. Je sais pas tout encore, mais je saurai.
C'est ça qui est arrivé pour toi.
Bruno, c'est la première fois que j'écris ce nom que je ne t'ai pas donné.
J'aimerais bien savoir la tête qu'il a aujourd'hui, mais j'ai même pas de photo.
Si tu veux, je vais voir ton fils.
Elle n'est pas un scalaire retrouvé.
J'ai toujours eu peur de ce moment. Qu'on vienne te chercher.
Moi, j'ai jamais voulu savoir.
Mon fils, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter.
Tu dois aller à sa rencontre.
Je vais te retrouver.
Tu peux pas tourner le dos à ça.
Dans chacun de tes gestes.
Ta mère n'a pas su.
Surtout pas elle. T'es vraiment un drôle de garçon.
Mathieu ?
T'inquiète pas, tu vas l'avoir ton livre.
Je t'interdis de t'approcher de moi, de Maria ou de son fils.
Mon enfant, mon petit.
Elle m'a abandonné quand ça l'arrangeait.
J'avais besoin de toi.
Je sais, je suis désolée.
Maintenant, tu vas faire ce que t'as à faire, tu vas me laisser reprendre ma vie.
T'as rien dans ta vie.
Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi.
Voilà, c'est touffu, c'est confus. Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur ce film qui suit une pente mélodramatique avec des réflexes de thriller timide. Si les acteurs jouent impeccablement, le scénario paraît complètement artificiel. C'est là un souci de personnage. Alors, va pour la star du 20h qui n'a pas de sentiment maternel, va pour la danseuse étoile qui nous fait de la danse sensuelle qui passe bien à l'image, hein, finalement. Mais bon, après Black Swan, c'est un peu maigre. Mais les personnages masculins, eux, c'est un peu plus compliqué. Un écrivain sinistre dont personne ne se méfie, mais dont tout le monde s'entiche. Et un autre jeune homme en pleine confusion sexuelle. Plus on tire les fils de la maigre intrigue, plus on est noyé. Les yeux de sa mère pourraient s'approcher des films d'Almodovar, mais avec un sérieux et un scénario qui se voit à des kilomètres et qui plombe l'ambiance et qui finit finalement par ennuyeux sérieusement. Nul rebondissement n'est envisagé, alors que le réalisateur avait un peu de matière pour aller sur le terrain du thriller. Là, on attend juste le dénouement des fils sentimentaux, mais on n'a pas appris grand-chose et la palette des émotions qu'on a pu traverser est proche de l'encéphalogramme plat. Voilà. Donc autant dire que je me suis ennuyé copieusement dans les yeux de sa mère. Avec des acteurs qui pourraient s'en tirer bien, mais enfin voilà, je... Par du principe que si un scénario est bancal, artificiel et oui. Que les personnages sont mal construits...
Même les meilleurs acteurs ne peuvent pas sauver un mauvais scénario.
Ouais. Et Catherine Deneuve, en plus, si vous ne supportez pas Catherine Deneuve, n'allez surtout pas voir les yeux de sa mère. Il n'empêche que c'est tout de même projeté au cinéma et que ça sort aujourd'hui. On passe à l'actu pour terminer ce cinérama. On a une bonne dizaine de minutes.
Voilà,
on va y aller tranquillement. Ce soir, le cinéma Nestor Burma, en partenariat avec le Festival Cinéma d'Alès Itinérance, propose à 20h45 le ciné-concert avec le film South, mis en musique en live par Yann Jouvert. C'est demain, j'ai dit ce soir ou... Non, c'est demain en fait, voilà. Alors demain, le cinéma Diagonal propose à 20h la projection Rencontre avec l'avant-première du film de José Alcala, Coup d'éclat. Donc en présence du réalisateur et de Catherine Fraud. Alors, nous serons présents auprès de Catherine Fraud pour lui poser quelques questions. C'est Simon qui va s'en charger, on le remercie. Et on pourra écouter une interview dans les émissions prochaines de Cinérama. Demain aussi, c'est chargé puisque le Cinéma Utopia propose la projection autour du film Star Crash de Luigi Cozzi dans l'absurde séance à 20h, tu vas nous en parler Martin.
Oui, on aurait dû recevoir Adrien, qu'on a déjà reçu dans Cinérama deux fois, qui serait venu nous parler de l'absurde séance, mais bon, il est en train de préparer son costume, identique à celui de Caroline Munro dans Star Crash.
Non.
J'espère. Et voilà, alors Star Crash, si vous n'avez jamais vu de nanar sur grand écran, c'est l'occasion d'aller vous payer des barres de rire au cinéma Utopia. En plus, le réalisateur Luigi Cozzi sera là pour recevoir vos tomates pourries et répondre à vos questions en italien. Star Crash, c'est une sorte de remake décalque de Star Wars, le grand succès des années 70 que les Italiens ont décidé de piller avec ce film
sans le sou.
Voilà, hein. Sans le sou, avec quand même quelques budget. Effets spéciaux. Ah ouais. De la peinture en suspension, dans de l'eau, qui attaque des vaisseaux, et des costumes tout bonnement incroyables, dont celui de Caroline Munro, qui laisse voir plus de 80% de son anatomie, et qu'elle porte pendant les trois quarts du film. À noter qu'il y a quand même quelques guest stars dans ce film. Christopher Plummer, qui joue le rôle de l'Empereur Galactique, Christopher Plummer qu'on a pu voir assez récemment dans l'Imaginarium du docteur Parnassus. Il était bien plus jeune à l'époque. Et puis une autre guest star, David Hasselhoff, quand même.
Oh.
Ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est le personnage principal de K2000, vous le savez bien.
D'ailleurs, t'as Malibu, hein.
Peut-être. Après, je suivais plus K2000 qu'Alerte à Malibu.
Je confirme, moi aussi. Hein, mais...
Donc voilà, une sorte de pitrerie jubilatoire. Le scénario est indigent, les comédiens jouent comme des pieds, mais c'est l'occasion de bien rigoler en groupe à l'Utopia. C'est vraiment pas souvent qu'on peut voir des nanars comme ça projetés dans une salle de cinéma. Donc foncez-y, c'est demain soir à Utopia.
Et puis ça peut être intéressant, en plus d'avoir le réalisateur d'un nanar qui s'explique sur les moyens de production et ainsi de suite. Ouais.
Oui, à noter qu'il y aura également la projection d'un documentaire que justement Luigi Cozzi a consacré au fantastique italien, donc c'est Roma Fantastica, donc documentaire sur le cinéma italien de Cinecittà, les grands studios romains. des années 60 aux années 80. Et voilà, il parlera également de ce documentaire sur le fantastique italien qu'il connaît bien, puisqu'il a fini par tenir une boutique de produits dérivés ou de boutique déduite à Dario Argento, un autre grand maître du fantastique italien.
À l'Utopia, donc demain soir, 20h. Le 28 mars, cette fois-ci, l'association Languedoc-Roussillon Cinéma propose à 20h30 au cinéma Nestor Burma une projection-discussion avec le producteur Youssef Charifi autour du film en avant-première « Gruissant à la rame et à la voile » de Pierre Carle et Philippe Lespinasse. Le 28 mars encore, le Diagonal propose à 20h la projection en avant-première du film de Philippe Claudel « Tous les soleils ». Et puis à Pézenas, le 29 mars, le ciné-club Jean Renoir propose la présentation et la projection du film Good Morning England à 20h30 au cinéma Molière. Le 29 mars, le Diagonal propose une séance plein écran à 20h avec la présentation et la projection du film L'Esprit de la Ruche de Victor Eris. Et puis le 30 mars, le cinéma Utopia propose la projection débat autour du film La Commune. Paris 1871 de l'excellent Peter Watkins. Ce sera à 13h30 en présence de monsieur Huard, professeur, et monsieur Rousselet, président des Écrans britanniques, qui sont des spécialistes de Peter Watkins, dont tu as déjà parlé.
Oui, en particulier de La Commune, qui était déjà passé au Diagonal il y a quelques années, mais un film à aller voir, même s'il est long, il est exigeant, mais ça vaut vraiment le coup.
C'est le principe du documentaire. Hein,
voilà, tout à fait.
Et puis, on termine avec le 31 mars, le Diagonal, qui propose à 19h50 la projection débat autour du film Cellule 211 de Daniel Monzon. Et c'est fini pour l'agenda, qui était plutôt copieux. Et puis on rappelle, puisqu'on a entendu Antoine Leclerc, le directeur du festival Itinérance, qu'à Alès, il y a plus de 200 films à voir en 8-10 jours. Voilà, donc c'est pour le festival Itinérance, www.itinérance.org.
À suivre sur Divergence FM, l'émission consacrée à la musique de film, 24 notes secondes, consacrée aujourd'hui
au Moyen-Âge.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je reviendrai avec la deuxième partie de mon dossier sur Kadic. J'aurais vu le film avec Matt Damon, donc je vous en parlerai un petit peu.
Et puis, on va remercier encore une fois Bruno qui était aux commandes de cette émission.
Merci beaucoup.
Et puis, on va préciser que l'extrait final à la fin du générique, il va faire le lien entre Catherine Froh et puis Cédric Lapiche, puisque c'est le film Un air de famille. Voilà.
Pourquoi il s'appelle Caruso, vous le savez, vous?
Ah, parce qu'il chantait à une époque. Et avant d'être paralysé, là, il avait une voix de ténor. Alors il l'a appelé Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso, au patron.
Ce chien-là, il chantait?
Oui. Enfin, il faisait... Mais il chantait aucun air connu, quoi. Non, il chantait ce qui lui venait. Mais à partir du moment où il a eu son arthrose, il n'y avait plus rien. Ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça, et il s'est arrêté net. Enfin, c'est pas grave, un chien, c'est pas fait pour chanter, de toute façon.
Oui, mais enfin, c'est fait pour courir quand même. À plat ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée. Ça doit être insupportable.
C'est toute la journée, surtout, hein, parce qu'à plat ventre, sans rien faire, c'est plutôt bien.
Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé?
Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir, hein. Vous savez, au bout de deux ou trois...
À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça?
C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant, quoi.
Cinérama.
Ah oui, c'est vrai.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.